C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs.
I have a dream.
Les Africains, c'est intéressant pour nous parce qu'ils nous montrent que à partir d'un récit débutent ou se mettent en place des conditions extrêmement favorables à l'apprentissage. Ça, moi, j'y crois beaucoup, que le récit est très porteur pour le récit lui-même, dans sa structure, pour la pensée, pour donner envie d'apprendre. Ça, c'est à mon avis, là, il y a des choses fortes.
Salut, c'est Charles Cécile. Rencontre ce jour avec Serge Boimard. Si vous ne connaissez pas encore cet enseignant spécialisé, rééducateur, psychologue clinicien, sachez que depuis plus de 30 ans, il utilise le conte auprès d'enfants et d'adolescents qui ont pour point commun de refuser avec force les apprentissages scolaires. Aux dernières nouvelles, et malgré toutes les réformes dont l'éducation nationale est spécialiste, Serge Boimard n'a toujours pas été appelé rue de Grenelle pour conseiller le ministre. Ah, dommage.
Alors moi, j'ai commencé dans ce métier en étant instituteur, ensuite instituteur spécialisé. J'ai été rééducateur et psychologue et directeur pédagogique du Centre Claude Bernard à Paris. Voilà un peu les grandes lignes de ma carrière. Et puis autrement, je travaille comme psychologue en libéral.
Alors, vous êtes connu en particulier pour certains écrits que vous avez faits sur la résistance aux apprentissages, hein, la peur d'apprendre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet ouvrage et surtout nous dire de quelle pratique il vient ?
D'accord. Moi, ça vient d'une pratique, c'était surtout de la rencontre avec des jeunes enfants très réfractaires aux apprentissages. Et je me suis rendu compte assez vite qu'on avait toujours le souci de traiter cette difficulté de la même façon, c'est-à-dire toujours de considérer les manques de connaissances, de compétences, de motivation de ces enfants et à les mettre en avant. Alors qu'en fait, pour moi, il y a d'abord chez eux un fonctionnement intellectuel un peu particulier qui est bridé par ce que j'appelle cette peur d'apprendre, par l'empêchement de penser, ce qui va faire que ces enfants n'arrivent jamais véritablement à se mettre en situation d'apprentissage. C'est-à-dire pour moi, la peur d'apprendre, elle démarre quand même avec les premières expériences éducatives des enfants. C'est parce que les parents n'ont pas su suffisamment bien les initier à la frustration de la vie, la frustration normale. Donc celui qui n'est pas préparé à ça, il va avoir du mal à apprendre. Les parents, quelquefois, les ont pas initiés aux interactions langagières suffisamment. Vous voyez, les ont pas aidés à se projeter par la pensée dans ce qui est arrivé hier, dans ce qui va se passer demain, dans la façon de mettre des mots sur leurs sentiments. Et là, il manque quelque chose. Ce qui va faire que ces enfants, face à la contrainte de l'apprentissage, quand il faut rencontrer la solitude, le manque, la règle, face à ces contraintes, ces enfants se sentent déstabilisés, connaissent quelquefois un retour d'inquiétude infantile, d'angoisse, même chez ceux qui vont le moins bien. Et moi, c'est ça que j'appelle la peur d'apprendre. Et donc, du coup, ces enfants utilisent une défense que moi j'appelle l'empêchement de penser, c'est-à-dire face à la peur d'apprendre, ils font tout pour saboter le temps de la réflexion. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on leur demande de s'engager dans un petit travail intellectuel, même pour lire, pour faire un petit exercice de mathématiques, très vite, ils passent à une étape que j'appelle celle de l'autodévalorisation. Ils disent « je peux pas, c'est pas pour moi, j'ai jamais fait des trucs comme ça ». Ou bien des idées de persécution autour de l'exercice lui-même, en disant que c'est bidon, que le professeur explique mal. Enfin, oui, on va retrouver tout ça.
C'est la faute du professeur, toujours.
Oui. On va retrouver tout ça, et là, pour moi, ça camoufle ce que j'appelle cette peur d'apprendre, avec son corollaire qui est l'empêchement de penser. Et à partir de là, comme généralement les professeurs veulent refaire toujours les mêmes exercices, faire du rattrapage, compenser, donner des méthodes, ça ne sert à rien, sinon à faire que ces enfants renforcent leur stratégie anti-pensée ou anti-apprentissage.
Somme toute, il n'y a pas vraiment besoin de traumatisme très important. Je m'imaginais, moi, qu'il s'agissait plutôt de jeunes gens ayant connu dans leur famille des difficultés graves. Alors, qu'en est-il de cela ? C'est les mêmes schémas, en fait, peut-être renforcés.
Vous avez raison de me faire préciser ce point, parce que on pourrait croire que c'est réservé à ceux qui ont eu des traumatismes importants en famille ou en société. Pas du tout. Ça concerne au moins 15% des enfants qui vont à l'école. Vous voyez ? Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on trouve entre 15 et 20% de jeunes gens qui sortent chaque année de l'école sans maîtriser les savoirs fondamentaux. C'est-à-dire sans une bonne lecture, sans connaître les règles de base de la grammaire, sans avoir le sens des opérations. Vous voyez, et ça fait 15% de la population française, au moins. Donc, ce n'est pas seulement des polytraumatisés, vous voyez. Parce que certains aimeraient bien les ranger pour les laisser un peu à l'écart, raconter que ce sont des choses extraordinaires, c'est la très grande difficulté, alors qu'en fait, c'est une difficulté que vont rencontrer tous les enseignants. Toutes les écoles connaissent ces enfants, auxquels... sur lesquels vont buter toutes les méthodes d'aide et de soutien.
Alors, Serge Boismard, vous avez mis au point, vous avez fait des essais. D'abord, vous avez été confronté à la difficulté. Je crois savoir que vous aviez une classe à un moment que vous ne saviez plus comment vous en dépêtrer et que faire. Vous voulez bien nous raconter un petit peu cette classe ? C'est toujours délicieux d'entendre les expériences des uns et des autres et comment on a pu s'en sortir.
Moi, j'ai débuté dans le métier avec une formation d'instituteur. Donc, je savais faire classe. J'étais formé, parce que des fois, on rencontre des professeurs qui entrent dans leur classe, dans les écoles, sans formation. Moi, j'avais une formation, et je me suis aperçu que les propositions que je savais faire, en travaillant avec des enfants qui avaient de sérieux troubles du comportement, de grandes difficultés d'apprentissage, ça n'accrochait pas du tout. C'est-à-dire que dans ma classe, ils étaient seulement une douzaine, mais au bout d'une semaine, j'en avais plus qui étaient dehors que ceux qui acceptaient de rester avec moi. Et ceux qui restaient avec moi, en plus, ils me disaient « on reste, mais à condition qu'on ne fasse pas de travail d'école ». Vous voyez, c'est là. Donc là, j'ai connu un moment de dépression un peu. C'est dur quand on est enseignant.
Ça a duré combien de temps, cette phase un peu difficile ?
Disons moins d'un mois au total, peut-être entre une semaine et un mois. Et je me suis sorti de cette ornière ou de ce passage difficile grâce aux frères Grimm. Et je le dis toujours, merci, si je n'avais pas connu les frères Grimm, je serais sans doute plus dans l'enseignement.
Alors, les frères Grimm, comme vous le savez, ne sont pas inspecteurs de l'éducation nationale. Les frères... Alors, comment ça ? Qu'est-ce qui... D'abord, le déclic venait d'où ? Vous aviez une connaissance donc, du conte auparavant ou vous avez eu cette idée comment ?
Pas du tout. Ça a été un peu comme on attrape une bouée quand on est en train de se noyer. Je connaissais pas spécialement les contes. Je pensais que c'était pas adapté à la situation, mais j'ai commencé à les lire à ceux qui restaient avec moi dans la classe. Et ma première surprise, parce que c'était en gros des préadolescents, ils avaient entre 10 et 13 ans, ma première surprise, ça a été de voir que ceux qui étaient dehors sont rentrés pour écouter ces histoires et de voir que ça les intéressait. Mais que ça les intéressait, vraiment, ça les scotchait un petit peu sur leur siège. Je les envoyais qui suçaient leur pouce, d'autres qui se roulaient en boule pour écouter ces histoires. Et ça me surprenait. ça me rassurait pas forcément, mais en même temps, je me disais, au moins, j'arrive là à contenir et à rassembler mon groupe. J'ai l'air moins bête, en quelque sorte. Et du coup, j'ai vu qu'ils arrivaient à écouter ces histoires avec beaucoup d'attention. J'ai vu aussi que j'arrivais à les faire parler de ce qu'ils avaient entendu, hein, même si dans leur discours, il y avait beaucoup de grossièreté, de façon de s'affirmer qui était un petit peu particulière. Mais malgré tout, vous voyez, je ne me sentais pas rassuré avec des histoires comme ça.
Un jour, il faisait nuit, un jeune vieillard, assis, debout, couché, sur une pierre en bois, lisait les yeux fermés un journal, plié en quatre, dans sa poche, à la lueur d'une chandelle éteinte. Et sur ce journal qui n'était pas encore imprimé, il put lire la mort de ses quatre fils qui n'étaient pas encore nés. Le premier était aveugle. Le deuxième était manchot et n'avait plus de bras. Le troisième était cul-de-jatte et n'avait pas de jambes. Et le dernier, il était tout nu. Et voilà qu'ils s'entendaient bien et qu'un jour, ils ont décidé, ensemble, sans même se concerter, et ben voilà, on va y aller à la chasse. Ah, ils marchent l'un derrière l'autre sur le chemin. Le premier, c'était l'aveugle, parce que lui, il sait où aller. Et devant eux, surgissant d'un buisson énorme, un ours, mais si gros, avec ses griffes bien acérées, ça, ses dents luisantes, s'approche. Le manchot, il en faut un peu plus pour l'effrayer, il se baisse, il attrape une pierre et là, il la balance dans la gueule de l'ours. L'ours s'arrête un instant, juste ce qu'il faut pour que le manchot se baisse de l'autre côté, attrape un deuxième caillou, là, dans la gueule de l'ours. Et les deux pierres se sont frottées. Et l'ours a brûlé de l'intérieur, puis il a éclaté. Mais ce jour-là, il faisait tellement chaud que tout gelait, et même le son. Donc c'est bien joli de voir un ours exploser, mais quand vous n'entendez rien, est-ce que vous êtes sûr que tout est arrivé jusqu'à son terme? Donc ils ont dû attendre 4550 années, qu'enfin il fasse un peu plus froid, que tout dégèle. Ah, ça fait poc. Bon, alors, comme ils sont de bonne composition puis que le conte doit avancer, c'est vrai qu'un petit bruit comme ça, avoir attendu si longtemps, c'est quand même un peu ridicule. Mais enfin, ils avaient leur preuve, donc ils ont continué. Jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une rivière toute vidée. Malheur, pas de pont pour traverser. Bon, ben, ça fait rien, justement. Eh ben, il y avait des barques. La première n'avait pas de fond, la deuxième était trouée, et la troisième n'avait que le tour. Ils sont montés dans la barque sans fond. Et les voilà, traversant tranquillement. Ah, et l'aveugle, il a vu cette chose inouïe. Avant que les miroirs existent, c'est quand même extraordinaire de pouvoir voir le reflet du monde comme ça sur une surface. Ah, il a dit, mais si je vois le reflet des arbres en face, c'est que je peux voir ce qui est tout près. Puis se penchant, il a vu sa propre tête. Mais il s'est penché un peu trop, la barque a chaviré et c'est le manchot qui est tombé. Mais le manchot, vous l'avez déjà remarqué, celui-là, il en faut plus pour le laisser dans la misère. Il s'est attrapé lui-même par le col de sa chemise. Et là, il se balance jusque de l'autre côté comme ça. Mais loin. Et il arrive et il attend. Ils avaient attendu combien d'années? 4500. Et bien là, on va en mettre un peu moins. Parce que sinon, l'histoire après, ça va comme ça. Oh, ben, quand même plusieurs centaines d'années. Et il attend tranquillement. Et ses frères arrivent. Ça y est, la rivière est traversée. Les voilà dans la forêt qui n'avait pas poussé. Soudain, au-dessus des arbres, l'aveugle dit, regardez donc le lièvre qui s'envole là-bas. Oh, le manchot, il attrape son fusil, bam, il a tiré, le cul-de-jatte, il court comme un fou, il attrape le lièvre et il le donne au tout nu pour qu'il le mette dans sa poche. Ça y est, ils ont ce qu'il faut, la chasse est faite. La logique, c'est que maintenant, il faut partager, il faut manger. Oui, mais c'est bien gentil, ils sont loin de chez eux, il faut quand même bien faire quelque chose pour s'installer. Bon, une maison est là. L'architecte qui va la concevoir, celui-là, il n'est même pas encore lui-même conçu, donc on a le temps. Seulement, elle est là, voilà, ils sont entrés. Bon, une belle marmite sans fond, un feu tout mouillé, de l'eau séchée, et au moment de mettre le lièvre, en fait, c'est pas des vrais cuisiniers, mais si on ne fait pas bouillir du lièvre, enfin, bon, voilà, on fait ce qu'on peut.
C'est des Irlandais.
Ouais, ah bon, il faut c'est des Irlandais. Donc au moment de mettre le lièvre dans... Alors, il y a le tout nu qui a dit, oh, moi je suis désolé, mais alors, je déteste les plumes du lièvre, parce que ça se coince dans les gencives, comme ça, c'est dégoûtant. Oh, dis le manchot, qui lui, il ne fallait pas grand-chose, toujours il avait la solution. Donc il a mis son bras dans le cul du lièvre, comme ça, et il a attrapé la langue, et clouc, il l'a retourné comme un gant. on voit plus de plumes. Bon, bah, c'est comme si on avait plus, paf, dans la marmite. Et voilà que ça a commencé à chauffer, et à cuire, et à bouillir, jusqu'à ce que le lièvre, il soit cuit, 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 et qu'il s'envole par la fenêtre fermée avec tous les mensonges que je viens de vous raconter.
Tout le monde connaît les contes de Grimm, finalement. C'est une mise en scénario d'inquiétudes archaïques qui sont chez les êtres humains, et avec du récit autour de ces inquiétudes archaïques. Et je voyais que ça prenait beaucoup chez ces enfants qui connaissaient ces mêmes inquiétudes. Voyez. Et là, ben, du coup, entendant des histoires qui sans doute mettaient des mots sur des angoisses qu'ils avaient, des préoccupations fortes autour de l'organisation de leur famille, du groupe humain, de l'origine, des rivalités fraternelles. Là, il y avait des choses qui, véritablement, avaient prise sur eux. Ouais.
Parce que c'était de taille, de niveau, à rentrer en écho de leur propre souffrance personnelle ou de leur propre vécu.
Mais moi, je crois beaucoup que les récits qu'on appelle quelquefois des récits fondamentaux, moi j'ai beaucoup utilisé de la même façon, après les contes de Grimm, d'autres contes, des récits mythologiques, des récits fondateurs des religions, des civilisations. Et là on voit bien que on retrouve des grands thèmes, des préoccupations humaines. Et ces enfants agités, instables, qui vivaient ces préoccupations directement dans leur corps, avec du passage à l'acte, avec de la violence, avec de la grossièreté, ben, trouver enfin des mots, du scénario à mettre sur ces préoccupations. Et du coup, je crois que la capacité de renouer avec la réflexion, elle passe par là. Vous voyez, parce que dans nos écoles, quand un enfant, un élève est en retard ou a des difficultés, la première démarche qu'on va faire auprès de lui, c'est de l'entraîner plus, de tenter du rattrapage, de tenter de l'aider à organiser son travail. Et malheureusement, à l'école, quand ça ne marche pas, on continue, on s'entête. Il va connaître ça jusqu'à sa sortie de l'école. Et moi, je crois que ceux qui sont dans ces difficultés graves, qui sont quand même 15% dans notre école, ils ont des besoins prioritaires avant qu'on vienne leur faire de l'entraînement supplémentaire. Ils ont besoin d'apprendre, et ça, moi, vraiment, je me suis rendu compte de ça un peu à la fin de ma carrière, mais ils ont besoin d'apprendre à écouter déjà. Et écouter, c'est pas rester sage à sa place, sans bouger, comme on leur dit toute la journée. Écouter, c'est être capable de faire de l'image dans sa tête avec le mot entendu. C'est-à-dire, c'est être capable de greffer des nouvelles représentations sur les siennes, pour à la fois les enrichir et puis quelquefois les sécuriser. Donc vous voyez, il y a tout un travail qui doit être fait avec ces enfants qui ont peur d'apprendre, qui n'ont pas ces compétences psychiques pour entrer dans la démarche d'apprentissage. Eh bien là, apprendre à écouter, moi c'est une étape essentielle et qu'on court-circuite allègrement à l'école. Ça, je peux vous dire que ça...
Ces contes qui sont lus, hein, qui ne sont pas contés, qui sont lus.
Oui, moi j'insiste pour que même quand on raconte quelque chose, on est, quand on est à l'école, parce que là on est à l'école, qu'on ait toujours cette possibilité de revenir au livre aussi. Hein, ça, non, moi j'ai travaillé aussi avec des conteurs, mais c'est important pour les enfants de comprendre que ces récits qui, quelquefois, sont violents, viennent les choquer. C'est important qu'ils comprennent que ces récits ne sortent pas directement de la tête de celui qui est en face d'eux. Vous voyez, surtout quand c'est un professeur. Hein. Et c'est important qu'ils comprennent que c'est une culture écrite, qu'on se transmet de génération en génération, que ça ne vient pas d'être inventé, et que là, il y a des choses fortes. Hein, qui sont dans des mots qui sont écrits, qui sont sur le papier. Et pour ceux qui sont en difficulté dans les apprentissages, c'est important ce relais.
Alors, vous utilisez quelquefois Jules Verne, Mais et pourquoi Jules Verne? Parce que Jules Verne est quand même assez austère comme lecture.
Oui. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, à propos de cette lecture, justement, moi, j'insiste beaucoup pour que, en lisant, on adapte toujours son texte à son lecteur. Il faut arrêter de croire qu'on va rendre les enfants intelligents en leur lisant des textes qu'ils ne comprennent pas ou qui ne les intéressent pas. Il faut donc adapter son texte. Et Jules Verne, ben, je l'ai fait aussi. Il y a un côté un peu austère, un peu scientifique. On est obligé de couper certains passages. On ne peut pas se permettre de lire du début à la fin. Du Jules Verne, ça ne va pas prendre avec des préadolescents, par exemple. Mais par contre, il y a des choses très fortes dans Jules Verne, c'est-à-dire que et à chacun de ses chapitres, il commence toujours de la même façon. Il met son lecteur face à une représentation d'angoisse archaïque. Vous voyez, à travers ces héros sont toujours sur le point de connaître
l'étouffement,
la mort de faim, le manque d'air, les animaux sauvages qui les attaquent. Vous voyez, ça, c'est une représentation d'angoisse archaïque. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien que ça prend tout de suite. C'est pour ça que Jules Verne a eu beaucoup de succès avec les adolescents. Un bon lecteur, parce que celui qui lit tout seul, il faut qu'il soit un bon lecteur pour lire Jules Verne. Mais par contre, les adolescents, même intelligents, qui travaillent bien, voient un retour de ces angoisses archaïques au moment de l'adolescence. Et là, comme ils ont des mots, des représentations, des histoires à mettre dessus, ils s'en saisissent parce que ça les rassure. D'ailleurs, Jules Verne, il montre bien comment la connaissance, la réflexion et le groupe, il insiste beaucoup, et ses héros sont toujours en groupe. Hein, au moins trois, avec des représentants différents du côté des qualités humaines. Et bien, il profite de ces situations pour montrer que le groupe aide l'être humain. Donc pour moi, je crois que là, il y a une véritable leçon de pédagogie qu'on doit retenir. Et moi, je l'ai trouvé intéressant.
Un jour, j'étais seul dans une mauvaise yole sans quille. À deux lieues en aval de Chantenay, un bordage cède, une voie d'eau se déclare. Impossible de l'aveugler. Me voici en détresse. La yole coule à pic et je n'ai que le temps de me jeter sur un îlot au grand roseau touffu dont le vent courbait les panaches. Déjà, je songeais à construire une cabane de branchage, à fabriquer une ligne avec un roseau et des hameçons avec des épines, à me procurer du feu, comme les sauvages, en frottant deux morceaux de bois sec l'un contre l'autre. Des signaux, je n'en ferais pas, car ils seraient trop vite aperçus et je serais sauvé plus tôt que je ne le voudrais. Non, tout d'abord, il convenait d'apaiser ma faim. Comment ? Aller à la chasse, les oiseaux ? Je n'avais ni fusil ni chien. Eh bien, les coquillages ? Il n'y en avait pas. Enfin, je connaissais les affres de l'abandon, les horreurs du dénuement sur une île déserte. Cela ne dura malheureusement que quelques heures, et dès que la mer fut basse, je n'eus qu'à traverser avec de l'eau jusqu'à la cheville pour gagner ce que j'appelais le continent, c'est-à-dire la rive droite de la Loire. Et je revins tranquillement à la maison où je dus me contenter du dîner de famille au lieu du repas à la Crusoé que j'avais rêvé, des coquillages crus, un gigot de pécari et du pain fait de farine de manioc. Telle fut cette navigation si mouvementée, avec vent contraire, voie d'eau, navire désemparé, enfin tout ce que pouvait désirer un naufragé de mon âge. On a quelquefois reproché à mes livres d'exciter les jeunes garçons à quitter le foyer domestique pour courir le monde. Cela n'est point arrivé, j'en suis sûr, mais si des enfants se lançaient jamais en de pareilles aventures, qu'ils prennent exemple sur les héros des voyages extraordinaires. Ils sont assurés de revenir à bon port.
Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Dati do di do ci bom ci bom bom, dati do di do ci bom ci bom bom, dati do di do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di
io un innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. Da ti do di do, chi bom, chi bom bom. Da ti do di do, chi bom, chi bom bom. Da ti do di do. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dati do di do, chi bom, chi bom bom. Dati do di do, chi bom, chi bom bom. Dati do di do.
Dans le travail d'instituteur, d'éducateur, oui, que vous aviez, en utilisant donc ces lectures de contes, oui, avez-vous vu par la suite une amélioration du tableau, c'est-à-dire une ouverture de l'esprit des jeunes gens à la réflexion, à l'écoute, à l'apprentissage?
Moi, je crois que la lecture de contes, la lecture de récits, disons, porteurs d'inquiétude, de récits forts, comme les récits fondateurs de nos civilisations, etc., en soi, c'est pas suffisant. Il y a une étape suivante à laquelle j'insiste. Je vous ai dit, il faut leur apprendre à écouter, c'est-à-dire à faire de l'image dans leur tête, avec les mots entendus. Mais il va falloir aussi leur apprendre à communiquer, c'est-à-dire leur apprendre à mettre du mot, leurs propres mots, à l'oral ou à l'écrit, sur ces modifications d'images qui sont passées dans leur tête. Un enfant qui a été interpellé parce qu'on lui raconte des choses sur l'origine du monde, c'est très intéressant pour lui, pour compléter ce travail, de faire passer par ses propres mots les images qui sont en train de, nouvelles qui sont en train de se greffer dans sa tête. C'est pour ça que moi je dis que le travail important avec ceux qui connaissent ces difficultés, c'est un, le nourrissage culturel. J'appelle ça comme ça la lecture à haute voix, que je conseille vraiment très fortement dans toutes les classes. Et deux, de l'entraînement à communiquer en argumentant et en débattant à l'oral et à l'écrit. Vous voyez, quand on fait ce travail tous les jours, parce que moi je dis qu'il faut le faire tous les jours, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'écoutent. Mais malgré tout, j'insiste, parce que je le vois faire dans certains endroits, moi je l'ai fait, et ça c'est très très porteur. Quand vous parlez de progrès, on voit que déjà, en un mois de classe, il se passe quelque chose au niveau du groupe, des enfants auxquels on lit, on reçoive dans leur groupe ce que j'appelle un patrimoine culturel commun qui aide à vivre ensemble et à travailler ensemble. Alors, quand on a affaire à des classes hétérogènes, comme on a maintenant, c'est-à-dire des enfants de cultures différentes, de niveaux différents, d'éducation différente, on ne peut pas faire fonctionner une classe hétérogène sans donner au groupe des références culturelles communes. Et ça, c'est le travail des enseignants. S'ils ne font pas ça, ils passent à côté de quelque chose. Et les classes hétérogènes fonctionnent sur la ségrégation, après.
Alors, la journée d'un jeune qui va se retrouver en classe avec Serge Boismard, qu'est-ce que ça donne? On commence à quelle heure? On va lire combien d'heures par jour?
Non, mais vous avez raison. Sur le plan technique, c'est assez simple. Pour moi, dès le départ de la journée, on commence d'abord par ce qui va créer ce commun dans le groupe et qui va mettre les enfants, même ceux qui sont en difficulté dans les apprentissages, dans une position active et participative dans la classe. Si on ne fait pas ça, on passe à côté de quelque chose. Donc moi je dis, on commence la journée. Si ça commence à 8h, bah c'est de 8h à 9h qu'on va faire ce travail. C'est-à-dire, moi je conseille 20 minutes de lecture à haute voix. C'est déjà pas mal, 20 minutes à haute voix. Ensuite, 20 minutes au cours desquelles les enfants argumentent et débattent sur les idées importantes qu'ils ont entendues dans ces textes. Vous savez, quand vous lisez un conte de Grimm, quand vous lisez un récit mythologique, quand vous lisez un passage de la Bible, il y a toujours des questions fortes de débat dont les enfants s'emparent très facilement. Il suffit de les mettre en petits groupes préparatoires à 3 ou 4 pour débattre d'une question à l'oral d'abord, et ensuite chacun va écrire quelques mots sur ces questions de débat, dire si la discussion avec les autres a changé son avis ou pas. Il écrit 3 lignes là-dessus, mais ça, c'est important de faire passer par ses propres mots les représentations nouvelles qui sont arrivées avec le nourrissage culturel. Donc à partir de là, ça fait une heure qui est... c'est jamais inscrit comme ça dans les programmes. Mais quand on fait du nourrissage culturel, on utilise les textes qui sont au programme, donc on dénature pas l'enseignement. Quand on apprend à des enfants à parler, c'est marqué noir sur blanc dans les instructions officielles, on doit les faire parler, les aider à s'exprimer au plus juste de leurs pensées. Et quand on les encourage à écrire, ça fait encore un travail qui est proche quand même de ce qui doit se faire en pédagogie. Alors quand on a fait ça, on a ce patrimoine culturel dont je vous parle, patrimoine culturel commun. Et là, c'est facile pour chacun des professeurs, celui qui apprend à écrire, de se servir de ce patrimoine commun pour continuer le travail. Celui qui apprend l'anglais, il se sert de ce patrimoine commun pour apprendre l'anglais. Celui qui apprend les mathématiques, il vient chercher aussi des exemples, il vient chercher. Vous voyez, c'est ça, donner du sens, donner des racines au savoir qu'on propose à nos élèves. Ça sort pas, ça tombe pas du ciel. Il y a dans un conte, il y a toujours du temps qui passe, il y a des distances parcourues, il y a de quoi faire des mathématiques aussi.
Serge Boimard, avec toutes ces histoires, on sait que les enseignants, ils ont une hiérarchie.
Oui.
Est-ce que votre hiérarchie a bien compris le sens de votre travail? Est-ce qu'il l'a compris tout de suite? Ou est-ce qu'il a mis un petit peu de temps? Comment ça s'est passé avec la hiérarchie éducation nationale qui, quelquefois...
Je ne sais pas si j'ai eu de la chance, mais ça a toujours été pour moi un plus dans mon métier. D'entrée, je me suis fait inspecter, comme tout professeur, et j'ai été encouragé à continuer sur cette voie. Donc je peux pas... J'aurais voulu être un révolutionnaire, j'aurais voulu être au banc d'une institution que je critique, mais non, j'ai été récupéré. Moi, on m'a dit, c'est bien, continuez comme ça. On m'a donné l'occasion de faire des formations. Je suis sans cesse invité à des colloques, à des conférences, à des formations de l'éducation nationale. Alors après, je suis invité, j'ai une place, mais en même temps, on ne me suit pas beaucoup. Ça, il faut...
Alors voilà, voilà. Non, parce que c'est ça qui serait intéressant, c'est de voir ce type de méthode-là arriver à être généralisé. Voilà. C'est-à-dire sans en faire un diktat absolu de fonctionnement dans les classes, mais au moins que l'information passe.
Non, mais vous savez, sans en faire un diktat, moi, je crois vraiment que dans les années qui viennent, c'est pas l'informatique qui va sauver l'école. Il faudra de l'informatique, bien sûr, mais ça, c'est pas un outil pour remettre dans le bon chemin ceux qui n'arrivent pas à penser. Ça, sûrement pas, j'y crois pas. Par contre, faire du nourrissage culturel à l'école, avoir des classes qui fonctionnent avec un patrimoine commun, c'est indispensable. Ça, il faudra qu'on y arrive, parce que autrement, les professeurs sont trop en difficulté. Je vous assure, moi, je vais dans des classes où je vois quelquefois plus de la moitié des élèves qui se supportent mal, qui se critiquent, qui s'insultent. Et comment est-ce qu'on fait fonctionner des classes comme ça? Comment est-ce qu'on fait fonctionner une classe de sixième quand vous avez un tiers des élèves qui n'a pas le niveau en lecture, en écriture? Vous voyez? Et là, pour moi, il y a une sorte d'obligation. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est déjà connu de longue date. Obligation qui consiste à donner des références communes à un groupe pour qu'ils travaillent ensemble.
Ça. Alors, forcément, j'avais une question à vous poser aujourd'hui. C'était celle de la place de l'oralité dans la société. Oui. Mais on la voit, là, la place de l'oralité dans la société. Au niveau du microcosme éducation nationale, de l'enseignement, déjà. Oui. Mais on peut supposer que ce qui est juste en termes d'éducation de nos jeunes est aussi assez juste en ce qui concerne la vie des quartiers, etc.
Écoutez, moi, j'ai une remarque. Ça, j'espère que vous le mettrez dans votre, dans votre compte-rendu. Moi, j'ai une remarque qui est essentielle, dont on ne tient pas compte, c'est-à-dire ceux qui sortent de l'école sans maîtriser les savoirs fondamentaux, qui lisent mal, qui écrivent mal, qui n'ont pas le sens des opérations, ils n'en sont pas arrivés non plus au stade du langage argumentaire. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas enchaîner deux arguments pour défendre une idée. Ils ne savent pas prendre un exemple quand ils parlent. Ils ne savent pas questionner leur interlocuteur. Et bien, quand on est ça, on est un handicapé de la parole ou de la communication. Et ça, c'est extrêmement grave pour moi. Ça devrait se travailler à l'école. Sans arrêt, tous les jours, parce que là c'est un point fort. Et en plus, non seulement c'est quelque chose dont on a besoin dans la vie, mais en plus, ça ouvre les portes de l'apprentissage.
Il n'est jamais trop tard quand même, Serge. Si par exemple on fait ce travail-là avec des adultes, certes.
Bien sûr. Moi je reste toujours optimiste. Je crois que tout le monde est toujours perfectible. Mais ça c'est important. Vous voyez ce que je vous dis là, avec des adultes. Il n'y en a pas beaucoup qui pensent que franchir le stade du langage argumentaire, c'est comme ça qu'on va apprendre à lire, on va aider à apprendre à lire celui qui lit mal. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui pensent ça. Celui qui lit mal, on va le bombarder avec des textes, avec des répétitions, et il aura beaucoup de mal à entrer tout ça en mémoire tant qu'il n'aura pas franchi ce cap. Il y a un cap premier à franchir. C'est pour ça que moi je dis l'entraînement à communiquer, l'entraînement à argumenter, à débattre, c'est extrêmement important. Et la pensée se structure avec le langage. Et ça, on l'a oublié dans l'école. On l'a oublié dans l'école parce qu'on ne fait pas ce nourrissage culturel dont je vous parle, ou pas assez. On ne fait pas d'entraînement à parler des élèves. On n'en fait pas. Tout le monde va vous dire que si, parce qu'on le fait un peu. Mais interroger à la volée dans une classe de 25 et faire parler 7-8 élèves, ce n'est pas faire parler les élèves. Les faire parler, c'est chacun dans une position active, prépare des choses dans un petit groupe, enfin chacun se sent concerné. C'est triste de voir des leçons qui se disent des leçons de langage dans les classes avec les 10 meilleurs élèves qui sont un peu les co-responsables de la classe avec le maître et puis 15 autres qui dorment. Ou qui écoutent seulement et qui ne sont pas dans cette position active qui est si importante quand même. Comment on peut apprendre à parler si on ne parle pas? En écoutant les autres, c'est déjà une chose, mais ce n'est pas suffisant.
Chez les Grecs, au tout début du monde, on pensait qu'il y avait chaos, qu'il y avait Gaïa, la terre, et qu'il y avait conscience. Tous les trois, Chaos, Gaïa et Conscience, vivaient dans des régions très reculées de l'univers. Et ils ne se parlaient jamais. Mais un jour, Conscience est sortie de chez elle. Elle s'est approchée de Chaos et lui a dit « Chaos, tu devrais mettre un peu d'ordre dans tes affaires. » Et lui, il l'a regardée, il m'a dit « Quoi ? De l'ordre ?» Je lui ai dit, oui, je ne sais pas, moi, tu devrais par exemple essayer de donner un sens à ta vie. Tu devrais peut-être faire des enfants. Des enfants ? Avec qui veux-tu que je fasse des enfants ? Et Conscience est repartie chez elle. Chaos est resté avec ses questions comme ça. Il a réfléchi longtemps. Et il a fini tout seul, sans l'aide de qui que ce soit, par mettre au monde deux enfants, le jour et la nuit. C'était deux enfants parfaitement réussis qui, eux, n'étaient pas jaloux. Ils se succédaient jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Pendant ce temps-là, Gaïa, la terre, s'ennuyait. Elle allait mal, elle allait très mal. Elle se perdait dans cette immense solitude, elle était dépressive. Alors Gaïa, la conscience, une nouvelle fois, est sortie de chez elle. Elle est allée voir Gaïa, elle lui a dit « Ma petite Gaïa, tu ne sais pas ce que tu devrais faire. Tu devrais faire un enfant qui deviendrait plus tard ton compagnon. » Ça, c'était une idée qui plaisait beaucoup à Gaïa. Alors, elle a imaginé le compagnon idéal. Elle l'a imaginé grand, fort, costaud, intelligent, drôle, sensible, cultivé, ceci, cela. Au bout d'un moment, elle s'est dit, bon, si je me montre trop exigeante, je risque fort d'être déçue. Donc, elle l'a juste imaginé grand et doux. Suffisamment grand pour qu'il puisse la prendre, elle, la terre, tout entière dans ses bras. Et suffisamment doux pour que chaque fois qu'il la touche, cela ressemble à une caresse. Elle en était là de ses réflexions quand de sa matrice a jailli Ouranos, le grand ciel étoilé. Exactement comme elle l'avait imaginé, suffisamment grand pour qu'il puisse la prendre tout entière dans ses bras et suffisamment doux pour que chaque fois qu'il la touche, cela ressemble à une caresse. À chaque nuit que fabriquait Chaos, le grand ciel se répandait sur la terre, fou de désir. Il pénétrait ses failles les plus intimes. Et c'est comme ça qu'au lit du ciel sont nés les premiers enfants de la terre. D'abord 12 titans, chacun plus haut qu'une montagne. Et puis les 3 cyclopes, Brontès, Argès et Stéropès, ceux-là n'avaient qu'un seul œil au milieu du front. Et encore les hécatonchires qui avaient 50 têtes chacun et 100 bras qui jaillissaient de leurs épaules. Il faut vous dire que tous ceux qui sont nés de la terre et du ciel étaient les plus adorables des enfants, doués d'une force extraordinaire. Ouranos n'a pas goûté au plaisir de la paternité. Il a vu Gaïa occupée par ses nombreux enfants et il s'est senti délaissé. Alors pour retrouver Gaïa, il a pris ses enfants un par un. Il les a remis dans le ventre de leur mère, tout au fond de la terre. La terre est devenue lourde, énorme. Elle a eu de plus en plus de mal à se déplacer. Elle a gémi, elle a crié. Et pour finir, elle s'est révoltée. Elle a convoqué tous ses enfants dans son ventre, là, les 12 titans, les 3 cyclopes, les hécatonchires. Elle a tendu une faucille et elle a crié « Vengeance !» Ah, vous les auriez vus, ces géants, chacun plus haut qu'une montagne. Là, devant leur mère, ils redevenaient enfants. Ils baissaient les yeux, aucun n'osait la regarder en face. C'est Cronos, le plus jeune des titans, qui a fini par prendre la faucille. Arrive la nuit. Le grand ciel, fou de désir, se répand sur la terre. Mais son fils, là, l'autre, prend la faucille. De la main gauche, il saisit le sexe de son père et il en fait moisson avant de le jeter au loin derrière lui dans la mer. Tandis qu'en gémissant, le grand ciel s'écarte à jamais de la terre. De sa blessure s'écoule du sang. De ce sang mêlé à la terre vont naître 2 sœurs, les Érinies, la violence et la haine. Quant à son sexe que Cronos a lancé dans la mer, il en sourd une blanche écume qui se mêle à l'écume des vagues. Et de cette union est né l'amour.
C'est pas pour dire un entretien avec Serge Boismard.
Il y a des enseignants qui travaillent dans les classes élémentaires, seuls, parce qu'ils sont un peu maîtres de leur emploi du temps, ils se débrouillent, ils lisent un récit mythologique, ils font travailler à partir de là. C'est plus. En élémentaire, ils sont plus tranquilles pour gérer leur journée. Dans les collèges, maintenant, je commence à connaître une douzaine de classes qui fonctionnent, qui s'appellent classes expérimentales. C'est souvent la classe de 6e qui est choisie pour ça, avec une médiation culturelle, c'est-à-dire une heure tous les jours. La première heure, c'est un professeur. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a un différent chaque jour, mais qui fait ce travail. Nourrissage, plus entraînement à argumenter et débattre tous les jours. Et ensuite, les autres professeurs essayent de s'informer et de greffer des grandes lignes de leur programme sur cet apport culturel. Vous savez, c'est pas très compliqué. C'est pas de la haute pédagogie, sincèrement.
Non, mais encore fallait-il le mettre en place ou le mettre.
Oui,
en...
oui, il
voilà,
mettre
attention,
en place.
C'est ça.
Faut le mettre en place. Vous avez raison, parce que là, les professeurs. Ça demande des changements d'emploi du temps, ça demande de communiquer les uns avec les autres, ça demande de se rencontrer dans la semaine. Des fois, il y a des choses qui manquent, ils n'ont pas ce temps, donc ça se fait à moitié, ça se fait mal.
Parce que le corollaire, c'est quand même le travail en équipe. Comment peut-on mettre en œuvre, en fait, ce socle commun d'un prof de français qu'un prof de français pourrait apporter, par exemple,
oui.
Et l'utiliser pour les mathématiques si on ne discute pas entre professeurs.
Oui, et puis il faut que tous les professeurs aient lu ce texte.
Oui. Hein?
Des fois, je suis surpris, des professeurs, un professeur d'anglais, c'est vrai que s'il veut travailler avec un conte, si c'est son collègue qui l'a lu, il faut que lui aussi il le lise. Déjà, est-ce qu'il va le faire? C'est pas sûr. Mais s'il le fait et qu'il s'engage, je vous assure, je vois par exemple dans l'apprentissage des langues, et ça je vois ça surtout à Genève, avec des professeurs d'anglais, d'allemand qui travaillent comme ça, ils font jouer des scènes à partir de personnages, d'un récit, d'un conte. Et les enfants apprennent par cœur des dialogues, parlent entre eux, apprennent du vocabulaire. Et c'est formidable pour l'apprentissage des langues. Hein, le texte a d'abord été lu en français. Ensuite, le professeur d'anglais travaille un peu de vocabulaire, invente un peu des petits dialogues, les fait apprendre par cœur par les élèves. Mais les élèves adorent ça. Hein, il n'y a pas très longtemps, hein, enfin, je cite souvent cet exemple parce que ça m'avait frappé, de voir dans une classe Blanche-Neige qui discutait avec les sept nains en anglais. Je vous assure que là, les enfants ont un plaisir fou à faire ça. Hein, ils se lèvent, ils ont chacun leur rôle, ils apprennent ça par cœur, après ils changent de rôle.
Je crois que c'est un maître mot, ça, la pédagogie par le plaisir. Hein.
Ben oui, oui, oui. Mais vous savez, quand on lit des récits et quand on les choisit bien, hein, vous qui êtes entouré de conteurs, qui connaissez ça, ça, les enfants aiment ça quand même. Hein. C'est même ceux qui ne travaillent pas bien à l'école. Si on sait les interpeller, bien choisir ses mots, bien choisir ses récits, ça fonctionne bien. C'est pas compliqué.
Serge Boismard, c'est plus qu'essai, c'est mise en pratique d'un certain nombre d'enseignants de ces, ce qu'on pourrait appeler des méthodes actives, non?
Oui, aussi, hein, ça, bien sûr. Bien sûr, oui, on est proche des méthodes actives.
On pourrait appeler ça comme ça. Est-ce que ces mises en pratique font l'objet de publications? Est-ce que, par exemple, un enseignant là, qui écoute notre émission et qui dit « Ah tiens, c'est intéressant tout ça », peut-il lire des choses concernant ce...
Moi, j'ai déjà écrit, et vous voyez, je l'ai devant moi parce qu'il vient juste de reparaître cette semaine. C'est la troisième édition de « L'enfant et la peur d'apprendre ».
Oui, Chez Duno,
on en a vendu déjà peut-être 40 000. Il est très connu par les enseignants. Hein. Et là, vous avez l'essentiel du travail qui est avec des expérimentations, des observations.
Vous-même collectez donc les observations d'un certain nombre d'enseignants qui...
Là, c'est plus mon propre travail dans celui-là. Après, j'en ai écrit un autre qui s'appelle « Ces enfants empêchés de penser ». Et là, je décris un peu mieux à la fois ce que c'est que l'empêchement de penser, mais aussi quelles sont les propositions et comment on peut les mettre en place dans la classe. Donc ça, pour des enseignants, surtout qui travaillent en équipe, les deux sont, à mon avis, intéressants, parce que là, il y a des considérations pratiques qui sont apportées.
A fait un beau voyage, ou comme c'est celui-là, quiconque il a toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison. Petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison, mais quand reverrai-je? Quand reverrai-je? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison? qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour qu'on bâtit mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin la douce Angeville. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Traverser les mers à la force de mes bras, seul contre les dieux, perdu dans les marais, retranché dans une cale et mes vieux tympans percés pour ne plus jamais entendre les sirènes et leurs voix. Nos vies sont une guerre où il ne tient qu'à nous de nous soucier de nos sorts, de trouver le bon choix, de nous méfier de nos pas et de toute cette eau qui dort, qui pollue nos chemins, soi-disant pavés d'or. Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je? Mais quand reverrai-je de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison? Mais quand reverrai-je?
Point de vue général, le conte, les histoires sont importants dans le monde d'aujourd'hui, sans doute. Si c'est vrai à l'école, c'est aussi vrai dans le reste de la société. Qu'en pensez-vous?
Ce que je vois, c'est que la culture des enfants, elle s'élargit beaucoup et elle s'appauvrit. Elle se disperse, elle s'éparpille, voyez. Et je crois qu'on a mission un petit peu de rassembler ça, de trouver des textes qui sont forts, qui sont fondateurs, qui permettent aux enfants d'avoir des références communes, hein, et je crois que c'est notre rôle, hein, que de mettre en valeur ces textes et pas les laisser éparpillés, comparer avec d'autres qui sont sans intérêt ou avec de l'actualité, avec du fait divers, avec vous voyez, ça n'a quand même pas la valeur des grands textes, hein. L'histoire du quartier, c'est intéressant, hein, on peut aussi en parler, mais malgré tout, hein, on ne doit pas oublier qu'il y a quand même des récits fondateurs qui sont extrêmement importants pour construire, hein, le fonctionnement intellectuel, l'esprit de nos enfants. Des fois, je dis la machine à apprendre ou de la machine à penser, mais il y a quand même des choses à mettre dedans.
Vous êtes psychologue?
Oui.
Donc vous avez en fait des gens qui viennent vous voir indépendamment de toute éducation nationale.
Oui. Ce sont des gens qui viennent. Ben là, c'est une consultation libérale, donc ils viennent de leur propre chef. Mais je me suis fait une spécialité en tant que psychologue, c'est aussi de recevoir des enfants et des adolescents qui butent à l'école, qui ont des problèmes avec les apprentissages, qui ont des problèmes de comportement, qui ne veulent pas apprendre. C'est ma spécialité.
Oui, forcément, un peu.
Oui.
Vous utilisez le conte, là,
Oui, j'utilise aussi les récits. Oui. J'utilise aussi beaucoup les récits. Ben, c'est finalement, vous voyez, souvent, ceux qui sont en grande difficulté dans les apprentissages, il manque quelque chose au niveau des mots, au niveau de la possibilité de mettre en récit sa propre histoire. Et à travers l'histoire des autres, à travers des récits qu'ils entendent, les enfants font des ponts avec leur histoire, universalisent un petit peu leurs préoccupations. Et là, il y a quelque chose qui va permettre l'échange. Et une de mes spécialités aussi dans ce travail psychologique, c'est de recevoir des enfants qui ne pourraient pas faire la démarche de psychothérapie. Oui, ils ne sont pas assez intéressés par leur monde intérieur, ils ne sont pas assez intéressés par leurs sentiments, leurs émotions. Donc, pour un psychologue, le lien est difficile à faire. Voyez, et moi, je m'appuie sur des histoires. Donc, je leur lis une histoire, et puis en gros, après, à partir de là, ça va partir dans des directions différentes. Mais les enfants ont envie de me dire ce qu'ils en pensent, de faire un dessin sur cette histoire, de la comparer quelquefois avec la leur. Vous voyez, donc ça, c'est un point d'appui, à mon avis, qui est intéressant et qui facilite le travail.
Serge Boismard, sortons du côté psychologique des contes. S'il y avait deux ou trois contes qui seraient vos chouchous, qui seraient vos préférés, si vous deviez partir sur une île déserte avec trois contes, qu'est-ce que vous choisiriez? Parlons plaisir un peu.
Moi, je travaille beaucoup avec des adolescents. Alors, il y a un conte de Grimm que j'aime bien leur lire, ça s'appelle « La gardeuse d'oie ». C'est une princesse qui va quitter sa mère pour aller se marier avec le roi du pays voisin ou le prince du pays voisin qu'elle ne connaît pas. Bon, déjà, là, vous voyez, pour des adolescents, dans les 10 premières lignes, on a la séparation avec ceux qu'on aime, la sexualité qui s'annonce avec un mariage forcé. Alors, vous savez, les adolescents, ils ont des choses à dire là-dessus. Et de plus en plus, à notre époque, et surtout si ce sont des filles... et puis après, dans les pages qui suivent, cette jeune fille, cette jeune princesse est accompagnée par une servante qui va prendre sa place. C'est-à-dire, dans le voyage, elle oblige à donner ses habits de princesse et elle veut arriver au château du roi et du prince en se faisant passer. La servante se fait passer pour la princesse. Alors, quand je lis ça à des petites filles, elles disent « c'est... » C'est énorme, ça se fait pas, c'est vraiment... Elle mérite la plus grosse punition, la servante.
C'est abusé. Ouais.
Mais quand je lis ça quelquefois, j'ai été surpris en lisant à des adolescents plus grands qui disent finalement, il faudrait peut-être changer un peu les rôles et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui aient l'argent et qui commandent et que les serviteurs prennent aussi la place de ceux qui commandent. C'est peut-être pas une mauvaise idée. Vous voyez, donc c'est... voilà un récit que j'aime bien utiliser avec les plus grands, hein, avec les adolescents. Puis après, La Belle au bois dormant, j'aime bien aussi. Les comparaisons, vous voyez, entre garçons-filles, il y a des choses très fortes dans un conte comme celui-là. Et puis sur Dormir ou mourir, vous voyez, ce sont des questions, hein, qui nous ramènent quelquefois à l'euthanasie, il y a beaucoup de choses dans un récit assez court comme celui-là. Vous voyez, il y a des ouvertures, hein, qu'on trouve toujours. Bon, ça, c'est pour vous citer deux contes de Grimm. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les récits mythologiques. Alors là, les récits mythologiques, et principalement, ça me paraît toujours intéressant de commencer par apporter aux enfants et aux adolescents du scénario différent sur les origines. C'est très enrichissant. C'est très, très enrichissant de montrer que les Grecs pensaient ça pour la création du monde, les Nordiques pensaient autrement, les chrétiens pensaient comme ça, et eux, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils pensent? Je commence souvent comme ça. Et eux, ce qu'ils pensent, alors là, on est surpris de voir comment les enfants se sont fait, avec leur propre théorie, une idée de la création du monde. Généralement, c'est un mélange entre le Big Bang, des fois on trouve Jésus-Christ qui arrive là au milieu de tout ça. Et bon, à partir de là, leur apporter ensuite des scénarios sur la création du monde, c'est très, très enrichissant pour l'esprit. Ça, je l'ai remarqué. Je l'ai remarqué essentiellement, vous voyez, avec les non-lecteurs, ceux qui n'entrent pas dans la lecture. Et là, il y a des ouvertures qui leur sont données dans cette fabrique d'images, vous voyez, qui est très, c'est très porteur pour la lecture. Et puis, bon, après, l'organisation du groupe qu'on trouve dans la mythologie, vous voyez, c'est les rivalités à l'intérieur de la famille, les nouvelles familles, on n'a rien inventé en ce moment. Moi, j'ai affaire à beaucoup d'enfants qui sont confrontés aux nouvelles familles. Ben, je vous assure que la famille des Olympiens ou des dieux grecs, il y a de quoi faire aussi.
Il y a de la matière.
C'est pire que chez eux.
Dites, Serge Boimard, est-ce que vous avez utilisé donc le conte pour des tout-petits? Est-ce qu'on vous a demandé dans votre pratique d'enseignant ou bien dans votre pratique de psychologue indépendant, est-ce que vous avez eu affaire à des tout petits genres, des enfants de 3 ans, quoi?
Assez peu, c'est pas mon expérience. Oui, je l'ai assez peu utilisé. Je pense que, bien sûr, là aussi, il y a toujours des adaptations à faire. Il y a des préoccupations qui sont un peu différentes chez les 3 ans. Vous voyez, c'est des choses plus infantiles, plus archaïques, donc il va falloir peut-être transformer, adapter. Mais dans la littérature jeunesse, il y a des ouvrages qui sont très bien sur le sujet. Il y en a, ce qu'il faut éviter, et quelquefois c'est un écueil que la littérature jeunesse n'évite pas, c'est de donner la possibilité, quand on amène une histoire ou un récit à l'enfant, de que ce soit quelqu'un de différent de lui. Vous voyez, il faut qu'il ait une possibilité de décalage. C'est pas bien, en tout cas avec ceux qui ont des problèmes, d'amener un enfant qui est comme eux, qui se pose les mêmes questions. Vous voyez, il faut que les enfants soient capables de s'identifier à un animal, à un objet. Vous voyez, il faut pas avoir peur de déplacer le problème. Faut pas, alors que quelquefois dans la littérature jeunesse, certains auteurs ont cru que plus les héros ressemblaient aux enfants qui lisaient l'histoire, plus ça allait leur plaire. En fait, ça leur plaît. Mais sur le plan de ces mécanismes qui aident la pensée à s'ouvrir ou à s'universaliser ou à se décentrer, il vaut mieux des héros qui permettent de prendre un peu de distance.
Bien, Serge, nous arrivons sur la fin de cet entretien. Y a-t-il des choses que vous auriez aimé me raconter et que je n'ai pas eu le...
Je ne sais pas, on a fait le tour déjà de pas mal de choses. Moi, je crois que là aussi, c'est pareil. Ce qui est intéressant, vous voyez, l'école vient d'ouvrir des portes avec les rythmes scolaires. Et là, ce sont des portes ouvertes pour l'entrée de spécialistes du récit. Et là, moi, je crois qu'il pourrait se passer des choses. J'espère que ça va... Parce que jusqu'à présent, vous voyez, des conteurs qui pourraient être utilisés parce qu'ils ont des choses à amener aux enfants dans les écoles, qui pourraient ensuite y avoir une reprise de ce qui est amené par ces conteurs par les enseignants. Là, on pourrait avoir peut-être des ouvertures. Je crois que là... Mais vous voyez, pour savoir travailler avec quelqu'un d'autre, il faut une formation. On pourrait croire que c'est donné, ça, parce que... Et en fait, c'est compliqué de savoir s'ouvrir, échanger, faire une part à l'autre, tout ça. Mais bon, moi, j'espère que la formation d'un enseignant ne va pas s'arrêter aux compétences techniques pour transmettre un savoir. Vous voyez, la formation d'un enseignant, c'est aussi être capable de rencontrer des réfractaires à l'apprentissage, parce qu'il va en rencontrer dans son métier, savoir traiter avec eux, et puis avoir des ouvertures. Ne pas avoir peur de revenir à des besoins prioritaires de ceux qui sont en difficulté. Et les besoins prioritaires, je vous les ai dit tout à l'heure, c'est savoir écouter, savoir communiquer, et savoir s'intégrer à un groupe qui apprend. Vous voyez, donc ça, si on respecte, si les enseignants ont en tête le respect de ces grandes priorités, je vous assure que ça ira beaucoup mieux.
Serge Boimard, merci beaucoup.
Merci à vous. Moi, c'est avec plaisir que je parle de ce travail. Pour moi, c'est intéressant aussi de chercher à m'expliquer et puis à influencer d'autres personnes, si je peux.
Voilà, c'est...
c'est pas pour dire, mais notre émission Modeste et Géniale est terminée pour aujourd'hui. Vous avez entendu dans l'ordre le conteur Pascal Quéré, raconté dans la grande tradition des Menteries, un conte de Grimm, le comédien Didier Royan lire un extrait des carnets de Jules Verne. Vous avez entendu également un extrait du spectacle de Marc Buléon, Ça s'est passé comme ça. Et puis le fameux poème de Joachim du Bellay, Heureux qui comme Ulysse, chanté par Ridane. Vous pouvez retrouver les écrits de Serge Boismard aux éditions Luno, L'enfant et la peur d'apprendre, Ses enfants empêchés de penser également. Je ne saurais trop vous conseiller de lire aussi les écrits de Suzy Platiel, par exemple L'enfant face au conte, paru dans les cahiers de littérature orale, de regarder le documentaire d'Alexandra Hena pour le CNRS Au pays des contes, ou d'écouter la récente émission de Sur les docks de France Culture, entretien avec Suzy Platiel, plaidoyer pour les contes. J'espère que cette émission fera des adeptes parmi les enseignants. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger l'émission ou vous la repasser plus tard, au chaud, sous la couette, sur le site www.c'estpaspourdire.fr. D'ici là, chers amis, ciao!